En ouverture d'émission, place, comme je mentionnais, à la Journée des droits de la femme, Journée internationale des droits de la femme, qui approche à grands pas et suscite chaque année toute une réflexion. Alors, s'il y a une œuvre qui m'a marquée, c'est bien celle de Judy Chicago, The Dinner Party of Judy Chicago. C'est une exposition très spéciale que j'ai encore en mémoire et que j'ai pu apprécier jeune adolescente au Musée d'art contemporain de Montréal. Écoutez, c'est quelque chose en 1982. 39 tables à manger, dressées, disposées en triangle, 39 figures historiques féminines identifiées avec toute une symbolique en images associées. Et au centre de ce triangle, de ce banquet, d'innombrables plaques de porcelaine désignant 999 femmes mythiques, historiques, trouvées par l'artiste, dont certaines presque totalement oubliées. Alors, c'était une œuvre féministe vraiment percutante, certains l'ont même décrit comme épique, et qui souhaitait porter à l'attention du public l'absence ou le manque de visibilité d'un grand nombre de femmes à travers l'histoire de l'art. Alors, qu'en est-il maintenant des avancées des femmes dans le champ des arts visuels? Je vais en discuter dans quelques instants avec notre première invitée, Mylène Lachance-Paquin, directrice fondatrice de l'événement Poste Invisible, commissaire indépendante, rédactrice. Elle a organisé un événement sur le thème de la visibilité des femmes artistes visuelles et sur le thème de leurs conditions de pratique. Alors, c'est un événement titré Poste Invisible. Alors, voilà. Mais d'abord, un petit pont musical. Le temps de joindre notre invité fort concerné, Michel Lachance-Paquin. Alors, est-ce qu'on joint Mme Mylène Lachance-Paquin?
Oui, bonjour.
Bonjour. Bien, merci d'être avec nous en ce samedi midi. Félicitations pour cet événement rassembleur que vous avez organisé, Poste Invisible.
Oui, bien, merci beaucoup.
Oui, quel plaisir de voir qu'il y a un tel ralliement. Et si on débutait par quelques-uns des constats que vous avez faits dans le milieu art visuel et qui vous amènent, bien sûr, à avoir tout orchestré cet événement, qui propose, entre autres volets, une conférence sur la place des femmes dans le champ des arts visuels.
Oui, en fait, l'événement est né d'un désir d'amener sur la place publique la situation pour dresser un peu comme un état des lieux.
Oui.
Donc, on a vu depuis les années fin des années 1800 le fait que les femmes ont été admises dans les écoles des beaux-arts, ce qui n'était pas le cas avant.
Oui.
On commençait à pouvoir avoir une pratique qui est un petit peu plus reconnue dans le milieu de la critique, notamment, avaient le droit de signer leurs œuvres, ce qui n'était pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé ce terme-là de poste invisible, parce que les femmes étaient extrêmement mises à l'écart, leur innovation était ridiculisée, donc étaient vraiment invisibilisées dans le milieu professionnel des arts visuels. Actuellement, c'est plus le cas. Comme on sait, il y a beaucoup de femmes qui sont maintenant dans les universités, dans les programmes tant en histoire de l'art, en muséologie, en arts visuels, et puis elles sont plus nombreuses à être diplômées que leur comparse masculin. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir le souligner. Toutefois,
il y a des chiffres vraiment forts, des chiffres effarants là, qui sont les représentations des artistes en galerie. Là. Donnez-nous quelques statistiques.
C'est
alarmant
ça,
même.
C'est un peu désolant de voir comment la pyramide s'inverse sur le marché professionnalisant. Les femmes en moyenne représentent 34% des artistes au Canada qui sont représentés en galerie.
C'est encore trop peu, là. Oui.
Oui, c'est vraiment pas assez, évidemment.
La parité n'est pas en galerie encore maintenant, là.
Comment?
La parité n'est pas encore en galerie.
Non, exactement. Oui. Puis ça amène beaucoup de conséquences très, très tangibles chez les artistes femmes, parce que quand tu n'es pas représenté en galerie, c'est difficile d'exposer. Puis quand tu ne peux pas exposer, tu ne peux pas. Donc, c'est en plus
vivre.
Difficile d'être tes œuvres sont moins achetées.
Oui.
Et donc, t'es moins exposé, t'es moins idéalisé, ta cote monte moins. Donc, ça amène vraiment une précarité qui est plus
Absolument.
Grande chez les artistes femmes. Et donc, c'est un peu une volonté de monopoliser l'espace de diffusion qui a été à la base de cette intention de créer Poste Invisible pour dire les solutions sont simples. On veut plus de femmes représentées en galerie. On veut la parité. Puis, je trouve que c'est juste la moindre des choses. On ne veut pas prendre la place de qui que ce soit, mais c'est correct que ça soit paritaire. Là,
il y a une autre statistique aussi très inquiétante qui est un petit peu aussi très questionnante. C'est qu'encore maintenant, les femmes ne gagnent que 27%.
De moins qu'un artiste homme en moyenne.
Oui.
Donc, pour chaque dollar, c'est ça, gagné par un artiste homme, une femme va gagner environ 73 sous. Mais cette statistique-là, si on la décortique davantage, on peut constater que pour les femmes ici de la diversité, c'est encore moins élevé. Puis, un artiste autochtone, femme, va gagner environ 57 sous pour chaque dollar gagné par un artiste homme. Donc, il faut vraiment aborder ces questions. Là, c'est un des éléments qu'on veut traiter dans la conférence qu'on prépare pour le 9 mars. Là, donc, de voir ce qui se passe en musée, ce qui se passe dans le milieu de diffusion pour que ces choses-là changent rapidement.
Alors, des points de la plus haute importance prévus pendant cette conférence de mercredi prochain. C'est en ligne, mais c'est
mars,
bien.
Oui.
À quelle heure? C'était aux 7 heures, hein, je croirais, de mémoire.
Exactement. Donc, à 19h, oui. On peut s'inscrire sur Eventbrite. Sur le site poste-invisible.com, il y a le lien pour pouvoir s'inscrire à la conférence. C'est également possible de s'inscrire via les informations sont aussi sur notre Instagram. Et notre page Facebook.
C'est un rendez-vous d'importance et qui sera animé quand même par une animatrice. Il y aura une animatrice vedette pour cette occasion spéciale.
Oui, on est vraiment ravis. C'est Marie-Louise Arsenault qui a accepté de se joindre à nous pour animer la conférence.
Oui.
Le panel est composé de différentes professionnelles très, très importantes
Allons-y.
Dans le milieu muséal et universitaire.
Dont Thérèse Saint-Gelais.
Ça permet de les nommer.
Oui.
Il y aura Eunice Bildard qui est conservatrice au Musée des Beaux-Arts de Montréal.
Oui.
Et Anne-Marie Saint-Jean-Aubre, qui est conservatrice au Musée d'art de Joliette.
Oui.
Et Anne-Marie Bouchard, qui est conservatrice également au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Et Thérèse Saint-Gelais, qui est directrice du département d'études de recherche, d'études féministes, à l'UQAM. Donc, ça va être notre panel pour aborder puis creuser les différentes questions autour de ces enjeux liés à la place des femmes.
Alors, écoutez, des participantes vraiment bien positionnées. Alors, c'est un rendez-vous absolument incontournable ce mercredi. Mais écoutez, ce rendez-vous s'accompagne aussi de d'autres volets, ce qui est très intéressant. Alors, voilà, vous avez un volet exposition. Plusieurs galeries ont répondu à l'invitation, hein?
Oui, ça a été vraiment c'est un projet qui s'est un peu construit tout au long de son élaboration, parce que le milieu avait vraiment envie de prendre part activement à ce projet.
Oui.
Donc, on a 6 expositions puis dans lesquelles on aborde différents enjeux liés à la situation des femmes.
Oui.
Donc, on est chez Projet CASA avec Anna Classe et Maud Arsenault. On apporte la force de la douceur, donc on traite de tous les rapports inégaux là, par rapport au pouvoir, donc tant pour les femmes allochtones qu'autochtones.
Vous êtes d'ailleurs...
assez touchante. Là. Je sais que je ne suis pas impartiale, pardon, parce que je suis commissaire de cette expo.
Oui, c'est ça. Vous êtes la commissaire de cette première exposition. Sans glisser un petit peu, on ne pourra pas parler de toutes les expos. Là. Il y en a 6, mais peut-être quelques mots sur cette exposition dont vous êtes la commissaire.
Oui,
la force de la douceur.
C'est une exposition qui aborde différents enjeux, notamment la charge mentale,
oui.
Les infanticides, les standards là, de beauté liés au corps,
oui.
Puis tout dans une perspective d'empuissancement par rapport à ces enjeux-là. On est dans une recherche de la reprise du pouvoir, la reprise du contrôle des femmes, donc avec le pivot qu'on peut aller vivre, disons, en reprenant la parole puis en mettant nos limites. Donc, c'est vraiment une pluralité de sous-enjeux qui sont traités là-dedans à travers les diverses pièces de la Casa Bianca, qui est elle-même une maison. Donc, c'est vraiment en parfaite adéquation avec le milieu où se déroule l'exposition. La force de la douceur aussi, on traite dans le fond du fait que souvent, douceur dans l'esprit collectif, disons,
oui.
Ça peut être lié généralement avec une forme de faiblesse, alors que mon point ici, c'est que dans la douceur, il y a énormément de force, dans la résilience aussi,
oui.
Puis d'associer le pouvoir à la force, c'est erroné en fait, puis souvent erroné. Puis donc voilà, on veut mettre en lumière le fait que dans toutes ces œuvres-là d'Anna Classe et de Maud Arsenault, qui ont une facture visuelle très douce et délicate, en fait, il y a un grand cri du cœur, on pourrait dire, puis un message aussi qui passe à travers leur réalisation. Donc, voilà.
Alors, toute une première exposition avec une artiste bien connue, là, Anna Classe, qui est très établie, et puis Maud Arsenault, qui est connue. Quelle belle première proposition d'exposition. Et parlez-nous de... Et donc, vous êtes la commissaire, alors on a hâte de découvrir cette exposition dans un lieu, soi-disant en passant, magnifique. Projet CASA, c'est extraordinaire. Mentionnez-nous les autres expositions à voir, inscrire à notre agenda.
Oui, ben on a plusieurs expositions qui vont débuter là, le 8 mars,
oui.
dont une qui est une goutte d'encre dans l'océan blanc, qui est au hangar 78-26. L'artiste Marie-Josée Gustave, qui fait des œuvres magnifiques en lien avec le tissage, le métissage, donc les structures tridimensionnelles, souvent qui aborde justement le fait que quand, par exemple, quand il y a une lumière qui est projetée sur ces œuvres qui sont de différentes couleurs, l'ombre, elle est toujours la même couleur. Donc, on voit un peu l'idée de mettre de côté les différences au profit de toute la richesse, dans le fond, d'une diversité qui est plus serrée, on va dire. Donc, voilà, il y a aussi Intérieur chez Cash Studio.
Oui.
La commissaire Stéphanie Cambria a préparé une exposition qui traite de différents aspects plus intimistes portés par les artistes qui sont présentes. Il y a 4 artistes qui sont là. Donc, Mathilde Bois, Catherine Boisvenu, Ève Saint-Jean et, j'ai un petit blanc...
Alors, écoutez, oui, dans ce sens qu'il y a Catherine Bois, Ève Saint-Jean, c'est tout. Mathilde Bois, Catherine Boisvenu, Ève Saint-Jean.
Oui, il y a aussi Par-delà les frontières, là, c'est une exposition qui est en dehors de Montréal,
oui.
Donc chez Champagne et Paradis à Kamouraska.
Oui.
C'est un collectif de toutes les artistes femmes qui sont représentées par cette galerie qui est elle aussi magnifique si jamais vous avez la chance d'aller faire un tour. C'est un lieu absolument exceptionnel, hors de l'ordinaire.
Écoutez, Kamouraska, endroit idyllique.
Pardon?
La Kamouraska, d'autant plus, c'est un endroit idyllique.
Oui, Oui. Tellement, absolument. C'est vraiment magnifique comme lieu. C'est intéressant aussi de mentionner que la femme qui signe cette exposition est une galeriste elle-même. Donc, ça nous permet de mettre en lumière le travail de cette femme exceptionnelle. Je veux vraiment le mentionner, Camille Champagne, pardon. Le texte est signé par Sophie Bertrand. Donc, on parle des différents stigmas qui sont liés à la pratique des artistes femmes. Est-ce que la femme est obligée de traiter dans son travail du fait d'être femme, d'avoir une facture visuelle plus associée à la féminité? Donc, c'est tout ce qu'on veut mettre de l'avant, par-delà les frontières. Donc, on brise ces plafonds de verre-là, parfois, qui sont encore présents.
Alors, voilà. Il nous reste trois autres endroits à nommer rapidement.
Différents sous-événements qu'on aborde là, dans différents sous-événements de post-invisible. Donc, engendrer l'impalpable, c'est Monserra Durand-Montadas et Pascal Baudet qui ont préparé une monographie qui parle du travail de Monserra, oui. Donc qui est une artiste qui travaille le verre et le tissu. Puis elle aborde dans ses œuvres et dans ce livre dont on est très, très heureux de pouvoir profiter de Poste Invisible pour faire ce lancement et cette exposition, oui, de Monserra.
Très bon choix.
Oui.
Une artiste particulièrement concernée par la...
Elle aborde le fait que quand on devient femme, on a comme une pression d'avoir des enfants. Il y a comme on sent cette pression-là, l'attente. Ça fait comme partie du rôle de la femme. Puis si on n'a pas d'enfants parce que soit ça nous intéresse pas, ça ne fonctionne pas, ça donne pas. Il y a plein d'enjeux qui sont liés à ça. Puis c'est vraiment touchant comment elle traite de ça dans ses œuvres. C'est d'une sensibilité absolument extraordinaire. Puis je pense que ça va faire bien à beaucoup de gens de pouvoir la rencontrer puis de découvrir ce travail si jamais. Il n'est pas encore connu, mais...
Le lancement est jeudi 10 mars de 17h à 20h à Circa. Alors, écoutez, le temps nous manque, là, mais il reste deux pour décrire les deux derniers événements. Peut-être juste nommer les deux derniers événements qui font partie du volet exposition, Espace 230, hein? Juste les nommer.
Oui, oui. OK. Bien, on a nombreux numériques chez Espace 230. Oui. Puis on a deux générations, deux points de vue chez Armure. Donc, de Karine Payette et Holly King. Sur les différences entre les générations. C'est Gabrielle Sartou qui signe le commissariat qui parle des réalités de toutes les personnes qui ne s'associent pas au genre masculin. Voilà.
Un volet exposition des plus enthousiasmants. Peut-être une toute dernière question avant de se quitter. Vous avez une campagne de sociofinancement qui est en cours?
Oui, ça va bien. Si jamais les gens veulent encourager l'événement, vous pouvez aller voir sur La Ruche. Le lien est également sur notre site, tous nos médias sociaux. Donc, parce qu'on élabore un programme pédagogique, en fait, avec tout ça pour que les enseignantes et les enseignants puissent aborder ces questions-là dans les classes. Donc, on prépare du matériel pied en main en fonction du programme de formation de l'École québécoise, donc pour nous aider à financer ce projet-là qui est important.
Oui, c'est un autre volet qui est le programme pédagogique. Alors, vraiment, une émission, un événement qui commence en grand à partir du 8 mars, mais il y a différentes dates. Il faut aller sur votre site web voir les différentes dates, les différents événements. Et puis, écoutez, surtout, là, une conférence le 9 mars prochain à 19h. Merci. Est-ce que c'est une première édition? Est-ce qu'il y aura d'autres éditions à venir?
On le souhaite. Considérant l'engouement, on est très, très enclin à penser à la suite. Donc, c'est peut-être un rendez-vous dans 2 ans.
Merci de nous avoir présenté cet événement. Bonne série d'activités. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine.
Merci beaucoup. C'est très apprécié.
Bon dernier préparatif. Merci.
Vous écoutez le magazine radio In Situ sur Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.